Selon les Écritures. Selon les Écritures, le père Alain Marchadour, bibliste, dialogue avec Pierre-Yves Révillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission biblique selon les Écritures. Pierre-Yves Révillon au micro avec le père Alain Marchadour, bibliste.
Bonjour père Alain.
Bonjour Pierre-Yves.
Au cours de l'émission précédente, nous avions commencé la radiographie de la Bible en focalisant tout d'abord sur l'Ancien Testament. Nous avions notamment évoqué la traduction grecque de la Septante et nous poursuivons notre échange en abordant maintenant le Nouveau Testament. Et la première question que j'ai envie de vous poser, Père Alain, c'est de savoir comment s'est faite la transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament pour les premiers chrétiens.
Alors je vais faire la transition par un lien avec la Septante. Curieusement, la Septante est reconnue par les maîtres en Israël comme étant une sorte de miracle. C'est-à-dire, septante, ça veut dire 70 en grec. Là, il y a une légende qui veut qu'on ait remis la Bible hébraïque à 70 ou 72, ça dépend des cas, à 72 spécialistes du grec et de l'hébreu, et que chacun ait remis son texte avec une exactitude égale pour tous les 70 manuscrits. Donc, c'est vraiment un miracle. Mais le paradoxe de cette version, c'est que, et là on aborde le sujet que vous avez évoqué, va naître le mouvement de Jésus, à ce moment-là, qui sont des juifs bien sûr, hein, mais qui vont utiliser la Septante. Et donc on va le développer un peu ça, la Septante va être la Bible des premiers chrétiens, à tel point que les juifs, voyant les premiers chrétiens adopter la Septante, vont rejeter ce qu'ils considéraient eux-mêmes comme étant un miracle de Dieu, vont rejeter la Septante comme étant le plus grand jour de deuil de l'histoire, et donc ils vont renoncer à la Septante, et ils vont traduire au moins deux ou trois traductions de la Septante en grec, que l'on connaît aujourd'hui, qui sont intéressantes, mais ils vont rejeter la Septante parce que les premiers chrétiens ont pris la Septante. C'est dire, la naissance du christianisme est quelque chose de fondamental, de compliqué aussi, qui est à la fois un prolongement, on pourrait dire, du judaïsme, parce que les premiers chrétiens, c'était des juifs, mais l'avènement de Jésus et la résurrection de Jésus va provoquer, au fond, une cassure qui va se durcir progressivement entre les juifs et les disciples de Jésus, et ça va donner naissance à une autre littérature. Vous voyez, c'est un peu en résumé, on pourrait dire ça.
Donc c'est la Pâque, le point de départ des écritures du Nouveau Testament, si je vous comprends bien.
Exactement, c'est la résurrection de Jésus qui est un... Alors c'est un mystère, hein, on dit souvent, ça ne relève pas de l'histoire, la résurrection de Jésus. C'est un phénomène qui se joue entre le Père et l'Esprit et le Fils. Et c'est le nouveau nom de Dieu, on pourrait dire. Mais évidemment, c'est sur ce mystère de la résurrection de Jésus que va progressivement se marquer la différence et la séparation entre les disciples de Moïse et les disciples de Jésus. Et à ce moment-là, va commencer à naître une littérature nouvelle dont on va sans doute parler maintenant avec beaucoup de créativité et beaucoup d'originalité.
Alors on pense tout de suite spontanément aux quatre évangélistes. Pourquoi y a-t-il quatre évangiles, dont trois qui se ressemblent beaucoup, qu'on appelle les synoptiques?
Alors, ben, y a beaucoup d'explications. D'abord, peut-être une première explication qui est à même assez révélatrice de ce qu'a été le traumatisme de la résurrection de Jésus. On a du mal à imaginer aujourd'hui la fécondité qui s'est développée autour des premiers chrétiens. Une fécondité à la fois spirituelle, mais fécondité aussi littéraire, avec une production d'écriture dont on n'imagine pas aujourd'hui l'ampleur. Vous avez un père de l'Église qui a dit un jour, à l'époque du premier siècle, les hérésies sortaient de terre comme des taupes. Je ne sais pas si vous avez vu quelquefois un champ de taupes où vous avez l'hérésie, les taupes qui sortent de tous côtés. Eh ben, les hérésies sortaient de terre avec la vigueur des taupes. Il y a eu des textes, des productions immenses qui vont évidemment souvent ne pas être retenus dans les textes canoniques, mais qui sont restés jusqu'à nous. Comment sont-ils parvenus jusqu'à nous? Pourquoi avons-nous aujourd'hui ces textes qu'on appelle les apocryphes? Pourquoi sont-ils venus jusqu'à nous? Tout simplement parce que les premiers chrétiens se complaisaient à les lire. C'était des textes populaires, mais que l'Église va refuser parce que justement, il va se focaliser sur les quatre évangiles. Alors, justement, vous me demandiez pourquoi parler des synoptiques d'abord? Parce que souvent, les gens se demandent qu'est-ce que ça veut dire synoptique? C'est un mot grec, hein. Syn, opsis, ça veut dire sous un même regard. C'est quand les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, peuvent être mis sous un même regard, c'est-à-dire en parallèle, parce qu'ils sont à la fois proches, ils sont à la fois différents. Et donc, chacun a son originalité, avec des bouleversements qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Vous savez, on a longtemps pensé, puis je développerai peut-être un peu plus après, on a longtemps pensé, pratiquement jusqu'à Vatican II, donc vous voyez que ce n'est pas vieux, hein, jusqu'à Vatican II, on a considéré que l'évangile le plus ancien, c'était l'évangile de Matthieu. Et dans toute l'histoire de l'Église, l'évangile que l'on a lu dans toutes les liturgies du dimanche, c'était Matthieu. Parce que Matthieu fait à peu près 1100 versets, grosso modo. Marc en fait 630. Et donc la logique voudrait que, puisque Matthieu est deux fois plus long que Marc, prenons Matthieu et pas Marc qui est plus court. Et donc pendant longtemps, on va lire Matthieu et jusqu'au jour où on découvrira que le plus ancien, ce n'est pas Matthieu, mais que c'est Marc. Donc ça, on va y revenir tout à l'heure. Et Luc, donc vous avez les trois évangiles, ils sont issus tous les trois de Marc. Et Matthieu et Luc se sont inspirés de Marc. Ils avaient sous les yeux l'évangile de Marc et plus un autre évangile qui est perdu, qu'on a appelé la source Q en allemand. Q, ça veut dire die Quelle en allemand, c'est la source. C'est un évangile perdu, mais dont on a retrouvé les sources dans les points communs dans Marc et Matthieu, parce qu'il y a des passages dans Marc et Matthieu qui sont communs et qui ne sont pas dans Marc. Donc, n'étant pas dans Marc et étant dans Matthieu et Luc, il faut bien qu'ils les aient trouvés quelque part. Donc, ils les ont trouvés dans un évangile qui s'est perdu depuis. On appelle la source en français aujourd'hui. Très bel évangile, le plus ancien, le plus archaïque, on pourrait dire, mais on n'en a que quelques traces avec environ 200 versets de Matthieu et de Luc. Donc, aujourd'hui, on sait que c'est Marc le premier, mais on va peut-être y revenir après. C'est la synoptique. Et Jean, alors qui est l'aboutissement, si vous voulez, le sommet des évangiles, c'est le dernier. Mais tout ça, c'est écrit dans un laps de temps quand même assez court, hein, entre 50 et 90. Tout ça a été écrit. Quelle fécondité! Comment imaginer? Ça veut dire aussi la force qu'a été le mystère de la résurrection.
Alors vous dites 50 ou 80 ans après les événements, c'est quand même beaucoup. Ça s'est passé donc dans le cadre des premières communautés chrétiennes qui pratiquaient une transmission orale de ces événements, des paroles de Jésus, etc. Que sait-on sur la façon dont les évangélistes ont effectué leur travail de mémoire, de relecture et de rédaction des événements?
Alors ça, c'est plus difficile à dire, c'est-à-dire c'est plus difficile à donner des réponses parce que chaque évangile a sa propre marque et donc il y a beaucoup de commentaires qui sont écrits aujourd'hui et il y a des gens un peu, je dirais, les cœurs purs, mais qui ne connaissent pas beaucoup la science, qui sont convaincus que c'est Matthieu le plus ancien. Et je me suis fait quelques, entre guillemets, hein, quelques ennemis sympathiques ces jours-ci, où dans Prions en Église, j'ai présenté les quatre évangélistes. C'est pas fini, ça va continuer en janvier, février. J'ai présenté Marc et Matthieu. Et j'ai reçu du courrier de lecteurs en disant « Comment vous osez dire que Marc est plus ancien que Matthieu, c'est Matthieu le plus ancien. » Et alors je lui ai écrit gentiment une longue lettre, quand même, je me suis quand même mis en avant, et il m'a répondu quelques jours après, en me disant, mais voilà, c'est les savants ne connaissent rien, ils veulent pas comprendre, en réalité, c'est Matthieu qui est le plus ancien. Nous, on sait que c'est Marc. Alors j'ai essayé de lui trouver un argument peut-être décisif, mais à mon avis, malheureusement, il n'a pas été porteur. Je lui ai dit dans ma lettre, même le pape Benoît XVI reconnaît que Marc est le plus ancien, parce qu'il a écrit 3 livres sur Jésus. Hein. C'est pour dire, aujourd'hui, on sait que c'est Marc le plus ancien. Marc, l'ordre, c'est Marc, Matthieu, Luc et Jean. C'est l'ordre chronologique entre eux. Ça s'est joué entre 70, 80 et 100. C'est formidable de se dire qu'on n'est plus... Alors, vous évoquiez les documents. On a fait des découvertes dans ce siècle, hein, c'est pas vieux. Dans les années 1950, en Égypte, on a découvert des manuscrits, des papyrus contenant, tenez-vous bien, l'intégralité de certains évangiles. On a trouvé en particulier un papyrus, on les connaît, on a à peu près 80 papyrus. Vous savez, les papyrus, c'est fait avec des feuilles, c'est vraiment friable. Hein. C'est dire la richesse, au fond, de cette sécheresse de l'Égypte où les choses se conservaient avec un... C'est un miracle. Quand on a trouvé ça, moi, j'ai la photocopie de ces manuscrits, on a l'impression qu'on les a écrits hier, tellement c'est bien écrit, c'est admirable, c'est écrit en grec, c'est magnifique. Quand j'étais prof de grec, je faisais travailler à la fin du cours, à la fin de l'année, je faisais photocopier des pages de ces manuscrits, et les étudiants, en 20 minutes, ils avaient appris à déchiffrer les textes. Et donc, ces textes, tenez-vous bien, vous savez de quand datent ces textes? Ils datent des années 200 après Jésus-Christ. On a des textes des évangiles, des originaux, datant des années 200 après Jésus-Christ. Quand vous cherchez le parallèle avec la littérature profane, les premiers manuscrits que l'on a, des ouvrages comme Sophocle, Thucydide, ou tout ce que vous pouvez nommer comme auteur grec ou romain, sont du Xe siècle après Jésus-Christ. Nous, on a des documents datant de la fin du 1er siècle et du 2e siècle. C'est formidable. Et donc, ça veut dire qu'il y a une fécondité formidable. On a écrit, et les évangiles ont été sélectionnés, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qu'on a oubliés, qu'on n'a pas voulu garder. L'évangile de Pierre, l'évangile de Thomas, on pourrait se multiplier, qu'on a trouvé en particulier en Égypte. On a trouvé toute une bibliothèque dans les années 1945, en même temps qu'on découvrait Qumran, découvrir toute une bibliothèque en Égypte avec beaucoup de choses.
Alors justement, concernant les apocryphes, régulièrement, les médias nous parlent des apocryphes et évoquent l'idée que peut-être ils auraient été écartés, voire censurés par l'Église. Qu'est-ce qu'il en est?
Non, je pense qu'en fait, il n'en est rien. Je vais vous donner un exemple qui est peut-être une manière de penser aussi la qualité des savants d'autrefois. Vous avez entendu parler d'Origène. Origène, c'est un des grands-pères de l'Église qui est magnifique. Et Origène était un savant et il avait l'habitude, quand il voyageait, d'aller participer aux célébrations des communautés et il notait dans chaque communauté qu'est-ce qu'on lisait, qu'est-ce qu'on ne lisait pas. Et il faisait 3 colonnes. Dans la première colonne, il mettait tous les textes que l'on lisait dans toutes les églises. Dans la 2e colonne, il mettait les textes qui étaient lus dans certaines églises et pas dans d'autres. Et dans la 3e colonne, il mettait ce qui n'était lu nulle part dans les communautés. Eh bien, inutile de vous dire que les textes canoniques que nous avons aujourd'hui, c'est ce qu'Origène avait classé dans la première catégorie, c'est-à-dire ce qui était lu dans toutes les églises. C'est l'Église qui va déterminer le canon des Écritures. Ce n'est pas les autorités. Et ce qui va accélérer... Je vais m'arrêter après. Ce qui va accélérer cette canonisation, c'est au fond l'hérésie de Marcion. Vous savez que Marcion a donné naissance à une hérésie qui s'appelle le marcionite. C'est une hérésie dangereuse parce qu'on peut être, sans le savoir, on peut être marcionite. Donc il faut se méfier. Qu'est-ce que c'est qu'un marcionique? Marcion considérait que Jésus étant tellement novateur, il fallait rejeter tout l'Ancien Testament. Et donc Marcion, il a eu du succès. Il a été suivi par beaucoup de gens. Et l'Église, quand elle a vu ça, a accéléré la canonisation des Écritures en gardant l'Ancien Testament, parce qu'elle estimait, à juste titre, qu'on ne pouvait pas se couper de l'Ancien Testament, Jésus étant le fils, au fond, de toute la tradition juive.
Alors, parmi les écrivains du Nouveau Testament, il y a un géant qui s'appelle Paul. Est-ce qu'on peut considérer que les écrits de Paul constituent une sorte de 5e évangile ?
Non, parce que le 5e évangile, il n'y en a pas. Si vous voulez, le 5e évangile, on évoque souvent l'idée de 5e. Non, Paul, il a eu la chance d'être un vrai juif, hein, un juif tellement enraciné dans son judaïsme qu'il a même voulu éliminer les premiers chrétiens, donc vous connaissez l'histoire. Mais quand il s'est converti avec le chemin de Damas, il va être au fond celui qui va être le fil conducteur et qui va faire la transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Et il va être une figure, paradoxalement d'ailleurs aujourd'hui, dans le monde juif, Paul qui était discrédité beaucoup par les juifs il y a quelques années, aujourd'hui est considéré comme la seule source où l'on peut puiser des réalités du 1er siècle sur le judaïsme, parce que Paul reste un juif, il est juif de A à Z, mais un juif touché par Jésus, et donc c'est ça sa force. Hein. Et dans ce sens-là, il n'y a pas une rupture avec l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est partie intégrante de notre vie. Ça, je crois qu'il ne faudra jamais l'oublier, le perdre de vue. On ne peut pas rejeter l'Ancien Testament. On est les fils de l'Ancien Testament. Et sans l'Ancien Testament, le christianisme perd aussi son identité.
Alors, plus tard, au IVe siècle, l'Ancien Testament en hébreu et le Nouveau Testament en grec ont été traduits en latin par Saint Jérôme pour constituer ce qu'on appelle la Vulgate, qui a été pendant des siècles la seule Bible disponible en Occident. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur cette traduction ? Était-elle accessible aux fidèles ou n'était-elle réservée aux clercs et aux savants ?
Oh, d'ailleurs, vous savez, quand vous dites ça, il faut vous dire que les anciens ne lisaient pas. Hein. C'est-à-dire, il n'y avait que les savants qui lisaient. Les gens ne savaient pas lire. On lisait parce qu'on avait appris à lire, mais la plupart des gens écoutaient. On écoutait. C'est pour ça que dans les cathédrales, c'est très important ce que l'on voit plus que ce que l'on écrit. Les gens voyaient les tableaux et en voyant les tableaux, ils découvraient le mystère de la foi. Mais non, on n'écrivait pas. Il n'y avait pas une écriture développée, si vous voulez. Et donc, dans les premiers chrétiens vont garder certaines écritures. Paul, évidemment, va beaucoup marquer parce que Paul était un homme de génie. Si vous voulez, à la fois, il reste juif, mais en même temps, il a compris quelque chose du mystère du Christ plus que les autres. Ça, c'est le paradoxal. Quand il dit, vous savez, c'est dans la deuxième aux Corinthiens, quand il dit au chapitre 5, « Même si nous avions connu Jésus selon la chair, nous ne voulons plus le connaître ainsi. » C'est audacieux de dire ça quand même. Pour lui, c'est le Jésus transfiguré qui compte. Le Jésus selon la chair, c'est plus son problème. Et d'ailleurs, si on n'avait que Paul, on ne saurait pas grand-chose de Jésus. On sait qu'il est né d'une vierge. Après tout ça, en dehors de ça, on ne sait pas grand-chose. Donc, Paul ne s'intéresse pas au Jésus historique. Et Marc, c'est pour ça que parfois je fais la comparaison, je me dis, Marc, il a écrit l'évangile de Pierre, c'est Pierre qui a inspiré Marc, et il a été le compagnon de Paul. Et je me demande s'il n'y a pas quelque chose de voulu dans la part de Marc, quand les gens sont allés trouver Marc pour lui dire, tu devrais écrire l'évangile de Pierre, que Pierre raconte, il faut l'écrire. Et Marc, qui avait entendu l'évangile de Paul, illuminé, mais en même temps n'ayant pas de racines géographiques et historiques, il s'est dit, il faut qu'on ait deux évangiles. Il faut qu'on ait l'évangile de Paul, qui transfigure le Christ ressuscité, mais qu'on ait aussi l'évangile qui, pas à pas, raconte la marche de Jésus dans la terre de Dieu. Je crois que les deux sont indispensables. C'est pour ça qu'on a les deux, et les deux se complètent.
Alors, il y a un dicton qui dit que traduire, c'est trahir. Après des siècles de transmission et de traduction dans de nombreuses langues, comment peut-on garantir aujourd'hui l'authenticité du texte biblique ?
Vous savez, c'est vrai que traduire, c'est toujours s'éloigner du texte. Moi, je fais quelquefois des comparaisons. Il m'arrive assez souvent de vérifier les textes hébreux. Je suis en train de faire un travail actuellement sur la fidélité. Alors, fidélité, c'est un mot abstrait. Vous dites le mot fidélité, c'est une abstraction. Mais si vous cherchez en hébreu, vous ne trouvez pas de mot fidélité. Qu'est-ce que vous trouvez ? Ben, vous trouvez, par exemple, le verset 15 de la Genèse qui dit « Abraham crut en Yahvé ». Crut en Yahvé, il a cru en Yahvé. C'est le mot fidélité qu'on mettra en français à la place de « il a cru ». Vous voyez, c'est dire, la traduction, c'est toujours un écart avec le... C'est pour ça qu'il y aura toujours des traductions. On n'a jamais fini de traduire. Il faudra toujours traduire. Moi, j'ai participé à la traduction de la Bible Bayard. Traduire, c'est toujours...
Mission consacrée à une radiographie de la Bible. Nous sommes conscients que beaucoup reste à dire. Et c'est justement la raison d'être de notre émission « Selon les Écritures ». Nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro qui sera consacré à l'inspiration de la Bible et de ses auteurs. Merci à vous, Père Alain Marchadour, pour nous avoir partagé vos connaissances. Nous voici au terme de la rediffusion de ce numéro de l'émission biblique selon les Écritures, avec le Père Alain Marchadour, bibliste, qui nous a quittés le 3 mai dernier. Pour lui rendre hommage, Présence rediffuse l'intégrale des 44 émissions de 20 minutes du 29 juin au 4 septembre 2026, du lundi au vendredi. Rendez-vous donc au prochain numéro de Selon les Écritures. Chaque émission peut aussi être réécoutée à tout moment en podcast sur le site web radioprésence.com. Au revoir et à très bientôt sur les antennes de Présence.